France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Un téléphone sonne un peu particulier ce soir. On vous propose en effet de dialoguer avec un homme qui a certainement servi de guide à bon nombre d'entre vous à un moment ou à un autre. Philippe Glohagen, le cofondateur et toujours patron du célèbre guide du routard, est avec nous pour discuter avec vous et répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce guide qui existe depuis près de 50 ans. Alors, profitez-en pour lui poser toutes vos questions, pour nous faire partager les découvertes et les rencontres que vous avez pu faire grâce à ces guides, qu'il s'agisse de bons ou même de mauvais souvenirs, qui sait. Si vous vous demandez comment travaille l'équipe du routard, c'est le moment ou jamais. Philippe Glohagen nous parlera aussi des dernières publications de sa maison, qui a dû recentrer ses activités sur la France ces derniers mois, Covid oblige. Le routard vient même de sortir un magazine, un trimestriel, dont le premier numéro est tout simplement intitulé « La France qu'on aime ». Cette émission sera aussi l'occasion de retracer l'histoire du routard, car le bonhomme qui porte une map monde sur le dos fait indéniablement partie du patrimoine national. Comme toujours, on attend vos appels. Ne faites pas les timides, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons à Laval retrouver Guy. Bonsoir Guy.
Bonsoir Claire, bonsoir Philippe. Vous m'excusez, je vous appelle par votre prénom, mais je vous fréquente depuis si longtemps dans vos guides que j'ai l'impression que nous sommes de vieux amis.
Et oui, c'est le cas.
Allez, on fait partie de la famille, c'est ça ?
Voilà, et je voulais vous parler d'une expérience assez incroyable que j'ai vécue avec grâce à vous. Je suis, entre autres, vice-président de Laval Virtual, une manifestation qui a lieu à Laval en Mayenne et qui est jumelée avec une manifestation qui s'appelle le SIGGRAPH à Los Angeles. Donc, très régulièrement, je vais à Los Angeles. En 99, pour la première fois, je débarque dans cette ville géante. Et évidemment, c'est très difficile d'appréhender une mégalopole telle que Los Angeles. Et donc, je suis avec mon guide du routard. Et je feuillette et je tombe tout d'un coup sur un petit restaurant qui s'appelle le Milky Way, dont on me dit qu'il est tenu par Léa Adler et qui est ni plus ni moins que la maman de Steven Spielberg. Donc je vais dans ce restaurant, et qui était spécialisé dans les plats à base de lait, un restaurant très confidentiel, très peu connu même des Angelinos. Et je dis que j'ai connu son restaurant grâce à un guide qui s'appelle le guide du routard. Et en fait, elle était absolument, Léa Adler, scotchée par le fait que son restaurant soit connu, parce qu'il était très spécifique, très confidentiel, et qu'il soit connu dans un guide français. Je lui ai même montré le guide pour lui montrer que effectivement il y avait son restaurant dans le guide du routard. Et donc, elle était très émue, elle m'a parlé de ses visites à Paris avec son fils Steven Spielberg. Alors évidemment, elle descendait plutôt à l'hôtel Ritz que dans un petit restaurant comme le Milky Way à Los Angeles. Mais en tout état de cause, ça a été un très très grand moment et très émouvant de contact qui a été créé grâce au guide. Alors j'ai d'abord une première question, c'est de savoir comment est-ce que vous arrivez à dégoter des endroits aussi confidentiels et aussi originaux. Et puis, il se trouve que cette dame était quand même assez âgée. Le restaurant a fermé quelques années après et il n'est pas resté dans le guide. Et donc, comment est-ce que vous réussissez aussi à mettre à jour des dizaines et des dizaines, des centaines d'adresses comme ça partout dans le monde? Moi, ça me scotche de mon côté. Et donc, c'était la question que je voulais vous poser après le témoignage que je vous ai apporté.
Merci Guy pour ce super témoignage. Est-ce que je peux juste me permettre, Guy, avant que Philippe Glohagen réponde à vos deux questions, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous êtes un habitué du routard ou si c'était exceptionnel Los Angeles ?
Alors absolument, je suis un habitué du routard. Professionnellement, je suis amené à voyager pas mal. Enfin, c'était avant la crise du Covid, bien évidemment. Et à chaque fois, même si j'oublie de l'acheter avant, à l'aéroport avant de partir, quelques euros et vous avez votre guide du routard et dans l'avion, vous pouvez regarder. C'est vraiment un outil absolument indispensable à n'importe quel voyage que je faisais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Avec une diversité, si je puis dire, de propositions, de budgets absolument extraordinaires. Et j'ai utilisé le guide du routard, bien évidemment, à Los Angeles, mais aussi à Istanbul, aussi en Inde du Sud, enfin, dans plein d'endroits où je suis allé.
Vous êtes un vrai routard, quoi.
Je dirais pas que je suis un vrai routard, mais un vrai lecteur du guide du routard, oui.
Merci Guy, mille fois, et on va demander à Philippe Glohagen de vous répondre. Déjà, je pense que vous n'êtes pas surpris d'entendre le témoignage de Guy, Philippe Glohagen.
Non, écoutez, d'abord, c'est touchant parce que c'est vrai que nos ambassadeurs, ce sont évidemment nos lecteurs. C'est grâce à eux que le Guide du Routard vit et survit dans une période aussi difficile que ce que l'on vient de connaître. Alors, le Milky Way, je le connais. Et moi aussi, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est que un soir, j'y vais. Ça a été découvert par Pierre Josse, il y a 25 ans, rédacteur en chef de l'ensemble des Guides du Routard. J'y arrive. Pas de peau. C'était fermé. Et je me dis, merde, c'est fermé, on n'est pas au courant au Guide du Routard. Et je vois Madame Spielberg, la maman, sortir, maquillée. Et elle vient me voir et elle me dit, écoutez, je suis vraiment confus, elle parlait français, mais ce soir, c'est mon anniversaire et mon fils m'amène à dîner quelque part. Et on voit une voiture gigantesque se garer et c'était Steven Spielberg qui allait chercher sa maman. Pas de garde du corps, pas de chauffeur, une simplicité. Et c'était un monde, on rentrait dans le monde de Steven Spielberg. Pour votre information, Milky Way veut dire la voie lactée.
En tout cas, il n'y a pas besoin de me faire une mise à jour spécialement pour dire c'est le jour anniversaire, donc ce jour anniversaire s'est fermé. comment vous les dénichez sinon ces endroits?
Ben, c'est un travail de longue haleine. On est très lié avec les offices de tourisme. Pour parler de la France, par exemple, il est clair que tous les comités départementaux de tourisme, les offices de tourisme, syndicats d'initiative, ont intérêt à nous donner leurs bonnes adresses. Et donc, il y a un contact très fréquent avec la rédaction en chef France, Amanda Keravel et ses collaboratrices. Et à la suite de ces informations, bien entendu, une équipe va sur place pour vérifier la qualité des informations. Mais c'est clair que tout le tissu touristique en France a intérêt à ce que le Guide du Routard soit à jour, que les adresses soient bonnes, parce que c'est une publicité gratuite formidable.
On vient vers vous, mais ce que vous dites est important, vous allez tout vérifier.
On va tout vérifier et on reçoit 25 000 lettres et mails de lecteurs par an. Donc,
comment vous vérifiez ? Ça, c'est quand même une question importante. Est-ce que vous vous présentez quand vous allez voir un restaurant, un hôtel, ou est-ce que vous dites que vous êtes le routard ou vous faites ça incognito ?
C'est évidemment incognito. Je vais vous apprendre une chose, Claire, qui va peut-être vous surprendre. Dans les sondages, un Français, pour choisir un restaurant, ne cherche pas d'abord la qualité de la cuisine, mais premièrement la qualité de l'accueil. Et pour ne pas être accueilli comme la reine d'Angleterre et le tapis rouge, il faut être exactement comme tout le monde.
Comme dans le film avec Louis de Funès.
Voilà, absolument. Et les réservations se font sous un faux nom. Et on y va. Et d'ailleurs, il n'est pas rare, une fois sur cinq, qu'on rentre même pas dans le restaurant parce que l'accueil est exécrable et il est déjà supprimé avant qu'on s'assoie sur à table. Et ce sont un tas de critères. Mais bon, il faut deux jours pour vous expliquer la complexité de ce métier, parce qu'il y a plein de petites choses. Par exemple, la qualité de la cuisine. On a suffisamment d'expérience pour comprendre si ce plat il est surgelé, si la sauce est en conserve. Et c'est notre métier de critique gastronomique, et on a des formations pour tous les jeunes collaborateurs.
Mettre à jour, ça veut dire retourner chaque année ?
Alors, pour les grandes destinations, bien entendu, puisque que ce soit New York, on va envoyer même deux, trois équipes, vu l'impressionnant nombre d'adresses. Mais c'est évidemment très important de chaque année retourner en Bretagne, de retourner dans toutes les régions françaises qui sont de grosses ventes, et parfois sur des destinations beaucoup plus lointaines. Je pense au Népal ou en Birmanie, qui est évidemment tombée actuellement. On enverra un collaborateur ou une équipe plutôt tous les deux ans.
On va repartir au standard de France Inter. Cette fois, c'est Annick qui est au bout du fil. Bonsoir Annick.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. On vous écoute Annick.
Bonsoir.
Oui, alors nous aussi, nous sommes des utilisateurs fidèles des guides du Routard, hein, aussi bien pour nos périples en France que nos périples à l'étranger. Et d'ailleurs, on ne sait pas se servir d'un autre guide touristique. on sait pas faire. Par contre, il nous arrive de nous retrouver dans une ville sans avoir de guide du routard parce que nous ne l'avons pas acheté avant de partir. Et on apprécierait ses conseils. Et donc, ma question, c'est à quand une appli, le routard ?
Philippe Alors, on l'a fait il y a une quinzaine d'années. Et bizarrement, quand elle était gratuite, ça a très très bien marché. Et elle est devenue payante, beaucoup moins chère qu'un guide, bien entendu. Et les ventes sont tombées. Figurez-vous que à midi, je devais déjeuner avec un producteur d'une grande chaîne de télévision française pour faire des applis en collaboration avec eux. Le rendez-vous est remis à la semaine prochaine, donc c'est le début d'une nouvelle aventure. Et vous avez raison, c'est l'actualité du moment, on y pense.
Elle a raison, Annick, parce que c'est vrai que c'est sympa d'emporter un guide, un papier, mais enfin, maintenant on fonctionne avec,
bien sûr,
avec,
et puis
avec
surtout,
le smartphone. Hein.
Clair, pour tous les expats qui travaillent en Thaïlande, en Amérique du Sud, et qui n'ont pas de libraire à proximité de chez eux. Donc, bien entendu, on y songe.
Donc, vous avez un petit espoir, Annick. À propos de justement des différents supports, Philippe Gloagen, Annick nous parle des applications. Beaucoup de diversification dans vos produits. Là, le dernier en date, c'est le Routard Magazine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? C'est un trimestriel ?
Alors, c'est un trimestriel. C'est une idée de la patronne de CEMIC, Claire Léost. Léost, ça veut dire août en breton. Elle est bigoudaine comme moi. Et elle a eu cette idée, pourquoi pas. Et comme moi, j'avais des collaborateurs un peu en chômage technique, du fait qu'il n'y a que les collaborateurs sur la France qui pouvaient travailler, on a sauté sur l'occasion. On s'est rendu compte que c'était un métier très différent du métier d'éditeur, à la fois passionnant, avec un directeur artistique, des maquettes très sophistiquées. Et on vient de sortir le numéro 1 il y a quelque temps.
La France qu'on aime, c'est le
la
titre.
La France qu'on aime.
Avec une deux chevaux rouges.
Voilà,
ça ne peut pas faire mieux. Là, hein.
Et c'est un bonheur, puisqu'on vient de dépasser cette semaine les 100 000 exemplaires.
Mais pourquoi vous avez lancé ce trimestriel ? C'est aussi parce qu'il y a eu une baisse des ventes avec...
C'était une baisse considérable. On a terminé l'année à moins 51%, donc ça a été très compliqué pour nous, pour beaucoup de Français. Évidemment, le guide du routard est inclus dans ce marasme, et c'était un moyen de faire travailler, et c'est vrai que ça a été une aventure, mais assez exceptionnelle, formidable, très différente de ce que je pouvais penser. C'est un autre métier que le métier de la presse par rapport au métier de l'édition. Et on est en train de boucler le numéro 2 et on est ravis.
Une suggestion de Yves qui nous écrit sur franceinter.fr. Je viens d'apprendre que le guide des chambres d'hôtes en France n'existait plus. J'utilise le guide 2017. Je n'ai eu que de grandes satisfactions lors de toutes les nuitées que j'ai faites avec. Pensez-vous refaire ce guide ? Voilà, vous voyez, on a eu beaucoup de demandes qui s'adressent directement à vous ce soir.
Ben, merci. Déjà bonne nouvelle, le guide 2020 est sorti, et donc il y a eu une édition plus récente que 2017 sur les chambres d'hôtes, et comme on pouvait plus contrôler à un moment, on pouvait plus voyager, et nous il faut absolument qu'on ait le contact, qu'on vérifie sur place, on a décidé de reporter à l'année prochaine la nouvelle édition. Donc vous en aurez une début 2022 sous la direction de notre ami Thierry Brouard, et qui sera totalement remise à jour. Donc elle continue, rien n'est abandonné.
Alain est au standard de France Inter. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On vous écoute Alain.
Oui, ben écoutez, là, je viens de continuer d'entendre après la première question que j'ai posée. Là, moi, je suis terrifié. C'est-à-dire que on parle maintenant d'application, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois maintenant sur des gens, là, j'habite pas loin d'un GR, les gens se promènent, ne regardent même plus la nature, ils sont là avec leur portable.
Le nez sur le téléphone, c'est ça ?
Ouais, ils fonctionnent avec des applications, mais des applications pour l'aventure. Mais attendez, on va où ? Moi, j'ai voyagé dans les années 70 où le guide du routard était balbutiant. J'ai déjà regardé un petit peu au départ. Bon, je me suis aperçu que, évidemment, c'était intéressant de savoir s'il fallait tel vaccin, tel truc, tel machin. Mais très rapidement, les adresses étaient surbookées, c'était fini, on se retrouvait entre nous, entre routards et tout, pardon, excusez-moi, et que l'aventure après, moi j'ai préféré la vivre sans guide, tout seul, et aller vraiment à l'aventure, sans aucun guide, pour savoir où j'allais passer la nuit. J'allais passer la nuit où mes pas m'amenaient. Et c'est pour ça, j'ai lu avec délice le livre de Sylvain Tesson, Les Chemins Noirs, qui sont un chemin d'aventure totale, sur les cartes au 25 millième, où on arrive, on part comme ça, et on arrive où on veut. Et moi, ces guides, je suis désolé, c'est pas mon truc, et je trouve que même c'est nuisible, parce que ça nuit aux sites. Il y a des sites fabuleux, fabuleux, que moi j'ai connus, qui étaient répertoriés dans le guide du routard, parce que là je parle pas des hôtels ou des auberges, je veux dire, bon, ça va, ça vient, mais des sites qui se sont retrouvés surbookés après, parce que c'est dans un guide, et c'est pas seulement le guide du routard qui est comme ça, c'est tout.
Merci.
Voilà, je voudrais juste dire ça.
Vous avez raison, Alain, de faire cette remarque, et d'ailleurs vous n'êtes pas tout seul, je vous cite Béatrice également, qui dit, j'utilise beaucoup le guide du routard, et ça m'aide énormément, le seul petit inconvénient, à l'étranger, on se retrouve entre Français dans les mêmes adresses. Alors, c'est pas exactement les mêmes préoccupations qu'Alain, mais qu'est-ce que vous répondez, Philippe Glouhagen, vous
alors,
participez
alors, écoutez,
au surpeuplement de certains lieux?
Il y a plusieurs millions de touristes au Mont-Saint-Michel. J'ai pas le sentiment que c'est le guide du routard qui est à l'origine de la fréquentation du Mont-Saint-Michel. Ça,
mais
c'est
vous
le
faites quand même
point.
Sortir certains endroits de l'anonymat, faut le reconnaître.
Écoutez, nous sommes les premiers à sortir, là, il y a quelques semaines, un guide du routard sur l'Ain. Qui a sorti un guide du routard sur l'Ain, qui est un département exceptionnel au niveau de la gastronomie, au niveau de la nature, au niveau du canoë-kayak? Eh bien, c'est le guide du routard. Là, aller chercher le pas de côté, c'est-à-dire hors des sentiers battus, je pense qu'on est là. On a sorti un autre guide sur le Tarn, sur le parc du Morvan. C'est quand même des niches qui sont peu fréquentées et on est très à l'affût de ce genre de choses. Mais monsieur a raison. De toute façon, c'est la liberté de chacun de prendre un guide, de pas le prendre. Mais vous savez, je vais vous donner un secret. Un guide du routard, c'est bien à consulter, mais c'est bien aussi quand on le referme. Et là, l'aventure peut vraiment commencer.
Soi-même. Une auditrice qui nous dit par mail, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'informations sur la nature, sur les réserves naturelles, les parcs naturels dans le guide du routard.
Nous avons 3 parcs naturels que depuis 2 ans, mais elle a raison, c'est très récent cette prise de conscience. Parc naturel des Pyrénées, qu'on a sorti il y a 2 ans. L'année dernière, le parc naturel des Cévennes. Et là, on vient de sortir le Morvan. On n'a pas terminé. Le guide de l'Ain, c'est un guide nature. Le guide du Tarn, qui va sortir dans 10 jours, c'est un guide nature. Donc, je pense que la préoccupation nature de toutes les équipes du guide du routard, et en particulier la nouvelle génération qui est là, qui attend qu'on s'engage sur l'environnement, et on le fait, eh bien, on essaye d'offrir ce genre de solution à l'ensemble de nos lecteurs. Mais on peut très bien ignorer le guide du routard, passer des vacances extraordinaires. Il suffit, je vais vous donner le secret, de partir avec la personne qu'on aime.
Gardez l'esprit routard. Betty par mail, pourquoi n'y a-t-il pas un guide du routard de la Nouvelle-Calédonie? Comment choisissez-vous les destinations? Céline demande la même chose pour la Serbie.
Alors, voilà, Nouvelle-Calédonie, c'est c'est aux antipodes. Le guide du routard est une collection qui est très bon marché, et pour s'en sortir, il faut en vendre beaucoup. Et la Nouvelle-Calédonie est une très belle région que je connais. Ce n'est pas forcément une région très fréquentée touristiquement, parce que le billet d'avion coûte une fortune, 26 heures de vol quand même. Il y a beaucoup de militaires, beaucoup de coopérants, beaucoup d'enseignants et relativement peu de touristes. En ce qui concerne la Serbie, monsieur a totalement raison. Il y a eu la guerre des Balkans et on fait chaque année un guide nouveau. Mais la Serbie est dans nos projets, tout comme la Macédoine. C'est des destinations que j'ai connues du temps de la Yougoslavie et je trouve que la Serbie mérite tout à fait un guide du routard.
On va partir à Saint-Aubin-sur-Mer, retrouver Chantal. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci.
On vous écoute, Chantal. Vous aviez une question ?
Alors, j'ai d'abord une anecdote qui remonte à 1992, quand est sorti le premier hôtel et restaurant de France. Il se trouve que j'avais été sollicitée par le Routard pour rédiger. Je travaillais en chambre de commerce et je voulais surtout pas, de point de vue confidentiel, apparaître dans le guide. Donc j'avais recommandé un ami qui a fait la rédaction. Et un jour, j'arrive chez un hôtelier qui avait été sélectionné et il me dit « Oh, vous vous rendez compte, Chantal, je suis dans le guide du Routard, mais qu'est-ce que ça va m'amener comme clientèle ?» Il avait une panique pas possible, en se disant, mais mon Dieu, mon Dieu. Et puis, quelques temps après, il me dit, bah, ça alors, ça m'amène des clients, ça m'amène des VRP, ça m'amène... Il connaissait pas le guide du Routard. Pour lui, c'était l'image Katmandou, quoi. Et on avait bien ri. Quelques années après, je lui dis, bah, tu sais, Jackie, si t'es dans le guide du Routard, c'est parce que tu faisais partie des gens que je connaissais bien, qui avaient des bonnes auberges en campagne, qui avaient besoin de clients. Et effectivement, ça lui avait amené des clients. Et il y en avait un certain nombre comme ça qui avaient augmenté leur chiffre d'affaires grâce au guide du Routard, parce que Hôtel et Restaurant de France, eh ben, c'était pas le Michelin, c'était le bon rapport qualité-prix, la bonne petite auberge. Et je me souviens, quand on visitait des établissements, on testait plutôt le menu le moins cher et la chambre la moins chère. Parce que l'accueil et la qualité du service et la gentillesse, eh ben, c'était, et la propreté, c'était des critères de sélection. Et je me souviens de cette peur panique de cet hôtelier qui, se voyant dans le Routard, s'était dit oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va m'amener ?» C'était le premier guide qui parlait de bon marché, de bon rapport qualité-prix. Voilà, ça c'est ma première expérience. Et je m'en souviens souvent parce que j'ai toujours le guide Hôtel et Restaurant de France de l'époque dans ma bibliothèque. Voilà.
Philippe Gloeguen.
Merci pour cette anecdote qui fait chaud au cœur pour nous. Mais c'est vrai que les hôtels et les restaurants qui sont cités, ils ne sont pas forcément bondés, mais ça amène 20 à 30% de clientèle à des gens qui le méritent, parfois qui sont isolés, qui n'ont pas les moyens de se payer des publicités, des jeunes couples qui s'endettent pour créer un nouvel établissement avec beaucoup de cœur et beaucoup de dettes. Et c'est vrai que on a le bonheur de pouvoir aider tous ces gens qui risquent leur peau, leurs finances pour créer de nouveaux établissements. Et c'est une vraie satisfaction pour l'ensemble de l'équipe de se dire, bon, bah, eux, ils le méritent, ils sont pas connus, on va les aider.
Chantal, vous aviez une question en plus ou?
C'était, à l'époque, moi, j'avais travaillé sur la création d'une charte d'accueil des randonneurs à l'hôtel. Malheureusement, je pense qu'on était beaucoup trop tôt dans les mentalités. Ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a une petite chaîne d'hôtels qui s'est créée, Balade Hôtel, mais ça n'a pas non plus fonctionné. On avait trop d'avance. C'était en Normandie, on n'était pas une terre de randonnée. Malheureusement, beaucoup de petits hôtels en campagne ont disparu. Mais aujourd'hui, il y a quand même un problème pour les randonneurs, et j'en fais partie. Quand on veut faire de l'itinérance, c'est très difficile de trouver celui qui accueille vraiment des randonneurs. Celui qui met un séchoir à disposition, celui qui éventuellement porte les bagages à l'étape suivante. Et à une période où on dit maintenant, ça va être des vacances du développement, enfin du tourisme durable, ça va être de la randonnée douce, ça va être une autre forme de tourisme, je pense qu'un guide spécialisé accueil randonneur serait pas mal. Il y a longtemps que j'y pense.
Merci Chantal. Alors j'ai cru voir passer un livre là devant moi, oui. Rando France, c'est ça?
Voilà, il y a 10 jours, nous avons sorti un album du guide du Routard qui s'appelle « Nos plus belles balades et rando en France ». Alors, c'est vrai, vous évoquez quelque chose de particulier, c'est-à-dire, il faut savoir qu'en France, il y a des agences de voyage qui portent votre sac à dos, en particulier sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a des personnes âgées qui, pour des raisons peut-être religieuse, personnelle ou sportive, décide de faire un petit bout du chemin de Saint-Jacques qui mesure, il y a quatre chemins au total, mais en moyenne ça fait 1700 km. Vous pensez bien que certaines agences genre Chamina dans le Massif Central proposent de prendre le sac à dos, de le transporter en camionnette jusqu'à votre prochain gîte rural ou hôtel le soir, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et là, on est en train de démarrer, nous, ces plus belles balades guides et randos en France. C'est le numéro un. Mais nous avons en voyage slow tourisme, nous avons une collection à vélo qui marche très fort et de plus en plus, avec 10 titres sur les grandes pistes qui traversent, les grandes pistes cyclables qui traversent la France.
Ça, c'est la grande tendance de l'été 2021, ouais. Philippe Glouhagen, le vélo. C'est vrai que d'abord beaucoup de gens vont rester en France, même si on se rend compte que les choses vont beaucoup mieux sur le front de la pandémie. Le président de la République nous a dit vacances en France quand même cet été. Et les sondages le disent, hein, 69% d'après Ipsos, notre partenaire qui était là tout à l'heure, 69% des Français vont rester en France cet été. A priori, vous surfez un petit peu sur la vague, c'est ça?
Randonnée, moi vélo. Personnellement, je vais passer des vacances dans le golfe du Morbihan que j'adore, et pourtant je suis finistérien. Mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup de gens qui veulent sortir de prison et qui veulent redécouvrir l'Italie qui est ouverte, l'Espagne, la Grèce, la Croatie. C'est ouvert, profitez-en. Il suffit bien sûr d'avoir la double vaccination et le QR code sur votre application. Et c'est vrai que il y a le libre choix. Mais comme la France est le plus beau pays du monde, eh bien, à chacun de choisir.
À propos de plus beau pays du monde, c'est vrai, et je rebondis sur ce que disait Chantal tout à l'heure, elle parlait de l'image de Katmandou, hein, du routard au début. C'est vrai que les choses ont bien évolué depuis votre premier guide en, c'était quoi, 1973 c'était,
absolument.
C'était sur c'était l'Inde.
Écoutez, Claire, je vais vous dire une chose. Le guide du routard a été refusé par 19 maisons d'édition.
Et c'est chez Gilbert Jeune que ça s'est joué, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est incroyable.
Lors d'une discussion.
Oui, c'est incroyable que vous sachiez ça. Ouais, c'est la rencontre chez Gilbert Jeune du patron de Hachette qui me dit, mais vous avez vu 19 éditeurs, eh bien vous avez dû en voir un 20e, moi, parce que moi je vous prends tout de suite. Et on a signé chez Hachette, et ça fait 40 ans que le couple est toujours solide.
Mais que le routard a un petit peu évolué quand même. Hein. C'était,
ah donc, bah bien sûr.
C'était ça, c'était l'ADN, c'était les terres lointaines au départ.
Oui, alors effectivement, c'était la grande période des chemins de Katmandou. On est né en 73, comme vous l'évoquiez. Cette route des Indes, je l'ai faite avec mon ami Michel Duval à l'époque, le cofondateur. Et puis, peu à peu, on s'est rendu compte que l'Europe, c'était intéressant et puis moins compliqué quand même au niveau de l'organisation. Et en 90, guerre du Golfe, interdiction de voyager facilement. On a démarré la France. Et là, on s'est
vous êtes rendu compte que la France était un beau pays, c'est ça?
D'abord, je connaissais pas la France. Moi, j'avais toujours tendance à partir un petit peu loin. Et quand, c'est vrai, je suis tombé sur l'abbaye de Conques, dans le sud de la France, eh bien, ça me parlait plus que les temples dravidiens d'Inde du Sud. Et très vite, on s'est rendu compte que la France était quelque chose de très important qui nécessitait un travail absolument monstrueux au niveau de la gastronomie, au niveau de la culture, et ça le mérite bien. Et c'est vrai que nos guides sur la France sont les plus grosses ventes que nous connaissons dans la collection du Routard.
Anthony est en ligne. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
On vous écoute Anthony, je ne sais pas d'où vous appelez, mais ce n'est pas très, très important en fait.
Oh, j'appelle de Côte d'Or, d'une commune qui s'appelle Marsanet-la-Côte.
Il connaît.
Il connaît tout Philippe Glouhagen.
Oui, Côte de Nuit.
Enfin le début de la Côte des Vins, effectivement, le premier village. Enfin, il y a débat là-dessus, mais en gros, on va dire que c'est le premier village de la Côte des Vins.
Vous êtes un habitué du guide du Routard, Anthony?
Alors, oui, je suis un habitué du guide du Routard. Et en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le guide du Routard, vous savez, c'est la petite phrase d'ambiance sur les établissements. Et moi, je me réfère souvent à ça, parce que je trouve qu'en une phrase, souvent, ça croque l'ambiance qu'on va trouver dans un hôtel ou dans un restaurant. Et je me souviens encore, il y a une vingtaine d'années, on cherchait une pension à Barcelone, pas très loin des Ramblas, et le guide suggérait une pension qui s'appelait la pension Bienestar, et la note d'ambiance c'était c'est une pension très sympa, mais ne cherchez pas de réconfort dans les lits. Et en fait, c'était exactement ça, c'est-à-dire que effectivement, c'était une super pension, mais les lits étaient horribles, quoi. Mais du coup, voilà, c'était très juste, en fait. Voilà, la justesse de la note d'ambiance. Et moi, je me réfère souvent à ça pour choisir les lieux où on va aller soit boire un coup, soit se restaurer, soit dormir.
Merci, Anthony. Le ton routard, justement, Philippe Glouhagen, d'où il vient?
Eh bien, d'une constatation très simple, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui l'avaient oublié, c'est que lorsque quelqu'un voyage avec un guide de tourisme, il est en vacances. Il a envie d'apprendre, de se cultiver, d'aller dans des bons restaurants, des bons rapports qualité-prix, un bel hébergement, mais il a aussi envie de rigoler. Or, on peut écrire avec un petit peu ce qu'on appelle, nous, le ton décalé, où on se prend pas trop au sérieux, où on parle comme à un ami, sans aller, évidemment, dans la vulgarité ou un argot démesuré, et toujours un petit clin d'œil, quelque chose qui peut être amusant, un jeu de mots.
Ça, c'est votre ligne éditoriale.
Oui,
en fait.
Pour donner un petit sourire aux gens. Bah tiens, ça, je ne m'y attendais pas. Vous savez, il y a une phrase d'Alphonse Allais qui dit « Si les Portugais sont gays, les Espagnols sont gnolles ». C'est très surréaliste et je trouve que c'est un ton un peu enjoué, un peu sympa. Et on essaye de suivre cette trace pour que les gens sourient en lisant les guides du routard, pour que ce soit, disons, pas trop chiant.
Des questions encore sur franceinter.fr. Adèle, comment devient-on pigiste pour le routard? Peut-être vous allez nous dire qu'il faut avoir une plume un peu marrante, justement. Et puis j'ajoute tout de suite une autre question d'un auditeur, aussi par mail. Comment sont rémunérés les pigistes qui travaillent pour vous? Leur passez-vous des commandes ou bien est-ce que ce sont eux qui font des propositions? Comment ça se passe? Voilà. Les gens qui ont envie de travailler pour vous, visiblement.
Alors, il y a la rédaction en chef, c'est un peu à part. Mais sur les pigistes, je vais vous donner exactement les tarifs. Après tout, quelqu'un qui démarre, il va démarrer à peu près à 110 euros par jour jusqu'à 160 euros par jour en fonction de de l'ancienneté. Et un jour de rédaction, c'est aussi un jour de rédaction en plus. Donc, il est payé deux jours. En gros, vous partez un jour à l'étranger, eh bien, vous êtes payé 320 euros. Ça coûte cher, mais nous avons une équipe de très grande qualité, très spécialisée. Mon responsable...
Vous avez déjà une équipe permanente ici,
oui.
À Paris, quoi.
Oui.
Combien? 80 personnes à peu près?
Alors, il y a plusieurs équipes. Rédaction en chef, 19. Les pigistes, 40. Chez Hachette, il y a 30, 40 éditeurs, cartographes, marketing qui s'occupent de nous. Et routard.com, ne l'oubliez pas, qui est un site internet qui est prospère, fait vivre 20 salariés plus 20 pigistes. Donc au total, disons, le guide du routard, c'est à peu près 120 personnes.
C'est vrai que ça s'appelle ou ça s'appelait les conférences de Yalta,
oui.
Et les conférences de rédaction?
Toujours, puisque deux fois par an, on a la grande réunion, on a le planning de tous les voyages.
Et on se partage le monde, c'est ça?
Voilà, il y a à peu près 250-300 voyages et on se partage les voyages en fonction d'un tas de critères de connaissances, de compétences et d'envie.
Il y a des pays où on ne peut plus aller, où le routard ne va plus. Faut aller partout, sinon, même là où les droits de l'homme sont bafoués?
Alors, moi, vous savez, c'est le grand débat sur la Birmanie. Au début, j'étais très réticent. Et quand je suis allé moi-même en Birmanie pour la première fois, et j'ai été devant la maison de Aung San Suu Kyi, qui était dans une cage dorée, et il y avait les flics qui attendaient, et c'était le début des portables. Et je me suis dit, mais si quelqu'un voit un flic tapé sur Aung San Suu Kyi avec les photos, tout le monde est témoin, avec les sites internet, ça se trouve partout. Donc plus il y a de touristes, moins la police, moins l'armée est libre de ses droits. Le pire des dangers, c'est qu'il n'y ait plus de témoignages. Et les lecteurs font partie de ces témoignages. Moi, mon meilleur copain où je pars à l'île de Ré, c'est le maçon. Bah, le maçon, il connaît Gluegen, il connaît Vincent Giray de France Info, et voilà.
À propos de l'île de Ré, où vous avez vos habitudes, il paraît que il y a un certain nombre de gens qui refusent de figurer dans le guide. Pour éviter la foule, hein, c'est
oui.
Ça.
Oui. Donc je vais pas dire le nom.
Non,
c'est une adresse
ça sert plus à rien.
Formidable en bord de mer à La Couarde, et c'est une sorte de paillote sur le sable. Et il peut gérer à peu près 90 personnes. Il est plein tous les jours. Et c'est vrai que si le routard lui amène 10-15 personnes de plus, c'est un peu la panique à bord, il peut pas les prendre, il y a du surbook, c'est compliqué. Et donc moi j'accepte totalement les hôtels ou les restaurants qui nous demandent de pas citer. Mais c'est rare.
Je voudrais vous citer deux témoignages pour terminer, Philippe Goulot-Hagen. D'abord, Bénédicte par mail qui nous dit « J'adore le routard. Jeune, je couvrais la couverture de papier Kraft pour faire genre. Je ne suis pas là grâce au routard. Mais il reste le meilleur guide grâce à son côté subjectif. » Voilà.
Merci.
C'est plutôt sympa. Et puis un autre message qui nous est arrivé, il est plus long, mais je vais vous le lire parce qu'il est franchement assez magnifique. J'ai grandi avec des parents globe-trotteurs. Je les ai toujours vus suivre le guide du routard. C'était leur bible, un peu comme France Inter d'ailleurs, il y en a aussi pour nous, hein, ça faisait partie de notre vie. Aujourd'hui, j'ai repris un peu le flambeau et malgré la concurrence d'autres guides et d'internet, le routard reste mon compagnon de route, un totem que je prends plaisir à lire et à relire au cours de voyage et de ranger précieusement ensuite dans ma bibliothèque. J'en ai perdu un une fois dans le lac Titicaca avant de le retrouver couvert de lentilles d'eau. J'en ai oublié un dans l'avion en rentrant d'Indonésie. C'est comme si j'avais perdu mes photos, je crois que j'aurais préféré oublier ma valise. Ma compagne a la même fidélité pour ce guide, je pense que je n'aurais pu être avec une fan de Lonely. C'est pas beau ça ?
Eh bien, vraiment, je suis très très touché. Et manifestement, c'est pas maman qui est au téléphone, hein, qui a laissé le message.
Non, non. Mais des messages comme ça, vous en recevez ? Le courrier des lecteurs, très important, Philippe Gloriel.
Et puis, le guide du routard est aussi un moyen de rencontrer une voisine d'avion, une voisine de restaurant. Et quelques mois après, bien, on reçoit un faire-part de mariage et puis après faire-part de naissance. Je crois que le guide du routard, pour beaucoup, beaucoup de nos lecteurs, fait partie de leur famille, c'est un ami proche et on est ravis d'appartenir à ce monde-là.
Le courrier des lecteurs, j'ai cru comprendre que c'était 25 000 mails et courriers par an.
Oui, et il y a une personne au Guide du Routard qui gère totalement le courrier parce que on répond. Et c'est très important parce que ça nous donne des pistes de réflexion pour être toujours à l'affût de la qualité et répondre à nos lecteurs, on leur doit tout.
Et en tout cas, visiblement, à vous entendre, encore plein de projets, plein d'idées pour la France, notamment où les gens vont rester cet été, avec toujours comme philosophie les gens d'abord, les vieilles pierres ensuite. Si j'ai bien suivi ce que vous disiez, un grand merci, Philippe Gloagen.
Merci de m'avoir invité.
D'être venu ce soir sur France Inter, un grand merci à vous.